Maxence Vandermeersch, L'empreinte du Dieu. Première partie. Chapitre 1. La voiture avait traversé le village et suivait un étroit pavé montant. On laissait derrière soi la Lys, rivière traînante. On allait lentement vers une ligne de hauteur continue que jalonnaient des files de peupliers et des moulins à vent sur le ciel gris de novembre. L'auto, un fort cabriolet 8 cylindres, couleur havane, laminait sous ses larges pneus les flaques de boue en jaillissement sale. Et Domitien van der Ghen, au volant, évitait tant bien que mal les caniveaux et les fondrières sur l'étroite chaussée défoncée en cette saison par les derniers charrois de betteraves. Une bise cinglante et dure enveloppait la voiture et sifflait dans les arbres nus du chemin. On arriva devant une masure séparée de la route par un fossé. Un grand moulin, derrière, tournait. « Voici la maison, Domitien, » dit Wilfrida van der Ghen. Van der Ghen arrêta la voiture et descendit. Planté sur une butte, le moulin, un moulin vétus, tout en planches et en ardoise, levait et abaissait ses longs bras dégingandés et grêles en un geste de sempiternelle lamentation. Sur sa tête, un ciel de Toussaint lourd de nuées. À ses pieds, la maison. C'était une petite maison des champs, basse, en briques rouges, soulignée d'un large soubassement goudronné et coiffée d'un feutrage épais de chaume décoloré où des herbes poussaient. Volets clos, portes closes, terre parmi les ronces, elle dispersait dans la bise un fil de fumée sale. Et sur elle tournaient avec lenteur les grandes ailes sifflantes parmi la tristesse et la nudité d'un rude automne. Van der Ghen regardait la masure. Il hésitait. Il revint vers l'automobile. « Tu crois que ce sont toujours eux, Wilfrida ?» demanda-t-il. « Rien n'est changé du moins, » dit sa femme. Elle descendit à son tour, frêle et pâle, frileuse, dans un lourd manteau de voyage en drap anglais. Elle contempla la maison. « Sait-on jamais, pourtant, si longtemps ?»« Allons, dit Van der Ghen, je vais toujours frapper. » Il franchit la dalle de pierre qui servait de pont au-dessus du fossé, traversa un jardinet hérissé d'herbes sauvages et frappa à la porte. Longtemps après, un verrou fut tiré. Tout le battant supérieur de la porte s'entr'ouvrit. Une fille parut, de 17 ou 18 ans, le regard bleu, le nez court, les cheveux blonds et bourriffés, l'air volontaire et sauvage. Elle examinait l'homme. « Dites-moi, mademoiselle, » demanda Van der Ghen, qui hésitait à la reconnaître, « ce sont toujours les Meurmester qui habitent ici, n'est-ce pas ?» La jeune fille ne répondit pas. On eût presque dit qu'elle n'avait pas entendu. Elle regardait toujours Van der Ghen. Et une douceur détendit son visage fermé. Elle souleva un loquet, ouvrit toute grande la porte à l'homme. « Entrez, » dit-elle, « vous êtes mon oncle Van der Ghen. » La cuisine était longue, sombre et propre, pauvrement éclairée par une petite fenêtre qui donnait sur les champs. Il y avait, avançant jusqu'au milieu, un feu flamand orné de barres de nickel et dont la platine portait deux hautes poignées recourbées en crosse. Un feu maigre de charbon de terre y brûlait. Dessus, une cafetière d'émail bleu et blanc et une ample bouilloire de cuivre rouge aux chauds reflets. La table était en face, une table de bois couverte d'une grossière mosaïque faite de fragments de carrelage assemblés au ciment. Quatre chaises de bois blanc le long du mur. Dans un coin, près d'une seconde fenêtre fermée à l'extérieur d'un lourd volet de bois, était un buffet bas en chêne à deux portes, noir à force d'être ciré, et qui supportait sous un globe de verre une statuette de Sainte-Anne en robe violette maladroitement coloriée. Elle tenait la Vierge Enfant par la main. Les murs étaient d'un blanc bleuâtre et froid, badigeonnés au lait de chaux. Un Christ de métal blanc mouré sur sa croix, un rameau de buis sec à son chevet. Autour des assiettes d'étain, des plats ronds piquetés de larges ciselures faites avec la pointe d'un clou. On y voyait une espèce de cheval ou des pigeons ou bien un coq aux membres lourds et gauches et des lettres à demi effacées. Récompense d'une victoire au jeu de coq ou de pigeon, souvenir d'une royauté au jeu d'arc. un sable blanc, de ce sable venu de la campine et qu'on vend aux boisseaux, moucheté le dallage de briques rouges vallonnées où les joints de ciment saillissaient en relief. Une grande horloge à pied, étroite et haute, battait dans le silence. Il n'y avait que cela qui vécut dans cette cuisine, l'horloge au tic-tac triste et la flamme courte dans le poêle. Par la fenêtre, on apercevait une plaine où des arbres nus et noirs sous le ciel gris semblaient tendre dans la brise vers la fuite des nuées, des bras désespérés. Les nouveaux venus s'étaient arrêtés sur le seuil. « Comme il fait sombre ici !» murmura Wilfrida. « C'est la Toussaint, » dit la jeune fille, « on disait la prière. » Après avoir refermé le battant derrière eux, elle se tenait immobile, l'air gêné, les mains pendantes, gauche et farouche comme une paysanne, tandis qu'il la regardait. « Ainsi, dit Wilfrida, tu es notre nièce Caroline ?» Elle fit oui de la tête, sans cesser de fixer sur Van der Rien ses yeux bleus, durs. « Et ton père ?»« Au village. »« Ta sœur Jeanne ?»« Ici. » Elle ouvrit une porte basse à plein cintre et qui ressemblait à une porte de couvent. Et les arrivants pénétrèrent dans une seconde pièce où une surprise les arrêta dès les premiers pas. Il y faisait noir. On ne distinguait rien qu'une rangée de lumignons primitifs, des mèches dans des verres d'huile dont la flamme saignait dans les ténèbres. C'était saisissant. Peu à peu, on discernait mieux les choses, on apercevait vaguement, sous cette clarté rouge, une sorte d'autel dont les lumignons formaient la double rampe. Il y avait, sur une table nappée d'une toile de lin, deux vases de cuivre en forme d'obus, un bénitier de coquillages et deux bougies de cire rouge garnies de papier doré, dans des bougeoirs en faïence de tournée. Au centre, un Jésus en plâtre colorié, un bel enfant blond que portait Saint-Joseph, tenait dans sa main droite la sphère symbolique surmontée d'une courte croix. On avait disposé dans les vases et sur la nappe de l'imbise des épis de blé mûr, d'orge et de folle avoine, en manière de fruste hommage évoquant les temps primitifs. Devant cet autel, il y avait deux prie-dieux, et sur l'un d'eux, une forme agenouillée priée. Le jour des morts n'est pas pour le peuple un vain mot en Flandre. On passe la journée, maison close, à dire des prières à genoux dans une chambre obscure. Et les gens d'autrefois respectent encore cette coutume, presque délaissée aujourd'hui, mais qui rappelait pourtant avec une tragique intensité ceux qui ne sont plus. Caroline, laissant les Van Bergen à l'entrée, s'avança vers la forme noire et lui parla bas. La femme se leva, alla souffler les courtes flammes palpitantes et revint vers les nouveaux venus. Dans la cuisine, on la vit mieux. C'était une femme des champs, approchant de la trentaine, maigre et le teint hâlé. Elle avait de Caroline, sa sœur cadette, l'œil bleu et le menton saillant, avec en plus cette âpreté que burine de bonheur dans les rides de la bouche et du front une pénible existence de paysanne. Elle paraissait émue quand même. « C'est bien, ma tante, c'est bien d'être venue, » fit-elle, « comme la mère sera contente. Elle a tant parlé de vous avant de mourir. Elle disait, « Je veux voir Wilfrida, allez chercher ma sœur Wilfrida. » De ne pas vous voir à l'enterrement, ça nous a fait de la peine. On n'est pas riche, on a toujours peur d'être oublié. Mais vous étiez en voyage, n'est-ce pas ?»« Oui, Jeanne, nous étions aux États-Unis. Nous n'avons su sa mort qu'en rentrant bien tard. » « Mais, tu vois, nous pensions à vous tout de même, et nous voilà. Comme vous êtes changées toutes les deux !»« Si longtemps, ma tante, plus de 8 ans que vous êtes partie, 5 ans que nous ne vous avons pas vue !»« C'est vrai, 3 ans dans le Midi pour ma santé, 2 ans de voyage à travers le monde. Caroline était haute comme ça. Quel âge a-t-elle maintenant ?»« 17 ans, et moi 29. »« Et le père ?» 60 ans bientôt. Il n'est pas là? Il est au village, sa partie de coq. C'est triste des jours comme ça pour les hommes. Elle les avait invités à s'asseoir. Elle allait au buffet, prenait de la farine, des œufs, un grand élo de faïence pour pétrir les crêpes traditionnelles du jour des morts. Caroline, va ouvrir les volets, tire le lait de la chair et rapporte du bois pour le feu. Vous restez quelques jours, ma tante. « Il y a de la place, j'installerai un lit. Vous dormirez dans votre ancienne chambre, tenez. » Jeanne diluait la pâte couleur de safran, écrasait les grumeaux de ses doigts noueux. Van Bergen était sorti, revenait avec deux valises jaunes en peau de porc. « Caroline va vous les porter, » dit Jeanne. « Laisse, laisse, » dit Wilfrida, « nous irons bien nous-mêmes, je connais le chemin. » Et elle précéda son mari dans l'escalier raide et noir, jusque dans la chambre, une petite chambre à plafond bas, coupée de biais par la déclivité du toit, et bizarrement éclairée à ras du plancher par une lucarne carrée, si bien que tout l'eau de la pièce restait dans l'ombre. Le plancher, de fortes voliges de chêne, s'affaissait, de sorte qu'au premier pas on chancelait, avec l'impression bizarre d'être dans une cabine de navire. Pas un meuble, une nudité complète. Wilfrida regardait cette petite chambre sans dire un mot. « Tu es triste, Wilfrida ?» lui dit son mari. Elle sourit. « mais non, je me rappelle seulement. Tu te souviens, Domitien ? C'est ici que tu es venu me chercher. En ai-je fait des rêves, ici ?» Elle eut un rire clair à travers ses larmes, un rire d'enfant qui la faisait charmante. « Étais-je folle en ce temps-là ?»« Folle ? Si tu savais comme je t'aimais sans te le dire, tu me quittais le soir, tu t'en allais. Moi, je restais ici, et comme c'était triste d'être séparée de toi, je tâchais de m'imaginer que nous étions encore ensemble, je te parlais, je t'écoutais me répondre. Nous lisions ensemble, et tu m'embrassais avant que je m'endorme. » J'ai été bien heureuse ici, oui, bien heureuse, en attendant le grand bonheur que tu m'avais promis. Ai-je tenu parole, Wilfrida ? T'ai-je bien rendue heureuse, ma femme ? Elle eut de nouveau les yeux mouillés. Elle le regarda en face, paisiblement, franchement. Oui, Domitien, tu m'as rendue heureuse ces 8 ans, assez pour toute une vie. Quoi qu'il arrive, maintenant, je n'aurai plus à me plaindre du sort. J'ai eu ma part. » Il embrassa, ému. Ils restèrent l'un contre l'autre, à s'écouter vivre, à prolonger cet instant de joie pure, comme deux amants. Ils redescendirent. « Et qu'êtes-vous devenu, mon oncle, depuis si longtemps ?» demandait Jeanne. « J'ai travaillé. »« Bien travaillé, » dit Wilfrida. « Sais-tu, Jeanne, qu'on parle de lui dans les livres, que des gens le connaissent à l'autre bout de la terre ?» Un homme illustre bientôt. Le Seigneur vous a protégé, dit Jeanne. Il faut bien qu'il y ait quelques heureux sur terre. Une pensée l'arrêta. Toujours pas d'enfant ? Pas d'enfant, dit Wilfrida. Ils se turent un moment, Jeanne s'affairait, préparant un souper décent. Caroline, de son coin, tout en pelant des pommes de terre, regardait son oncle et sa tante et ne parlait pas. « À propos, » dit Van Bergen, « si je pensais à ma voiture, où pourrais-je la garer pour la nuit ?»« Au village, mon oncle, vous trouverez près de la place, derrière l'église, un atelier de mécaniciens. »« Il y a de la place ?»« Il gare les autocars d'ouvriers la nuit. Caroline va vous y conduire. Mets ta pèlerine, petite. » Caroline s'essuya les mains, ôta son tablier et passa sa grosse mante de drap bleu marine. Domitien reprit son manteau, et ils sortirent. La voiture dévalait lentement vers le village. Ils arrivèrent derrière l'église. Van Bergen, au passage, reconnaissait des arbres, des maisons, une grande auberge, et les montrait. « Voilà où je dînais, petite, voilà où j'allais me reposer et lire. J'étais malade en ce temps-là, j'étais bien ici pour me soigner. C'est là que j'ai vu ta tante pour la première fois. » Vous étiez à deux, Caroline. Vous arrachiez des salses pareilles et du chien dent pour des tisanes. Tu étais toute jeune, toi. Tu ne te souviens plus de tout cela. Je me souviens, dit Caroline. Tu as bonne mémoire, petite. Mais comment as-tu su que c'était moi, tout de suite, quand tu nous as ouvert la porte? Tu as reconnu ma voix? Je ne sais pas, dit Caroline. J'ai comme senti que c'était vous. Elle paraissait gênée, un peu rouge. Quelque chose adoucissait son regard bleu, d'habitude fixe et plutôt farouche. « Voilà le moulin, » dit-elle. Ils arrivaient devant la maison. Le moulin tournait, élevait vers le ciel gris ses ailes lit de vin et rasait les herbes hautes dans un sifflement continu. « Qui l'occupe ?» demanda Van Bergen. « Toujours le vieil Engel ? Toujours. Allons le voir. Ils s'approchèrent du moulin par derrière. Ils montèrent l'échelle à marche plate et poussèrent la porte de la vieille tour de bois branlante. Ils entrèrent dans le réduit, une espèce de charpente compliquée et poussiéreuse où pendaient des cordes et des courroies. Le pivot central du moulin le traversait verticalement, un tronc d'arbre énorme, à peine équarri. Là, le vieil Engel en sachait de la farine. Il reçut Van Bergen avec son flegme de paysan, comme s'il l'avait vu l'avant-veille. Il parla de la crise qui lui faisait grand bien parce que beaucoup de fermiers ne vendant plus leur blé font moudre leur farine au petit moulin avant pour cuire leur pain eux-mêmes. La fleur d'avoine, les gruaux d'orge et de blé, les maltes, toutes les farines pharmaceutiques que la grande meunerie n'accepte pas parce que les quantités sont insuffisantes, lui donnaient aussi de l'ouvrage. « Et vous ?»«
Moi, Engel, je fais des livres, » dit Van Bergen. « Des vers et des pièces qu'on joue dans les théâtres. »«
Et ça rapporte, ces choses-là ?»«
Ça rapporte beaucoup, quelquefois. »«
Ah, bien, bien alors, » dit Engel. » Il laissa Karelina et Van Bergen monter tout au fête dans l'espèce de petit grenier sous le toit d'ardoise. Et il pesa sur une longue barre qui manœuvrait le frein, il arrêta les ailes et descendit diminuer la toile parce que le vent avait encore monté. D'en haut, par une lucarne sale, Van Bergen et Karelina le voyaient, au pied du moulin, réduire la voilure et tirer sur des cordes. Il revint. On l'entendit monter l'échelle, manœuvrer la barre de bois du frein. Et, libérés, les ailes, avec lenteur, se remirent en mouvement. Par la lucarne, on les voyait passer, presque à sec de toile, leurs voiles enroulées en cordes au long de leur charpente. Elles sifflaient en coupant l'air. Elles imprimaient à toute la vieille tour un branle doux, une espèce de roulis monotone. Un sourd grondement de machines montait des meules avec le claquement rythmé d'une courroie. Tout le moulin, sous l'effort des ailes, tremblait sur son pivot, accusait chaque poussée du vent et craquait dans sa membrure avec un gémissement perpétuel qui rappelait celui d'une mâture fatiguée. On se fût cru dans un navire. Plus bas, Engel surveillait la besogne, hissait du sol jusqu'à l'étage des meules les sacs de blé à l'aide d'un palan. On l'entendait tirer les cordes, embrayer les poulies. Et la furtive mécanique de bois, de toile et de cuir, engin millénaire, robuste et barbare, obéissait, hissait les sacs sans effort, tournait les meules, accomplissait sa tâche avec une aisance herculéenne, sans même qu'en fût ralenti le rythme de ses ailes dans la bise. Van Bergen appuyait son visage contre la vitre empoussiérée de farine. Vers le moulin convergeaient tous les vents de la plaine, courbant les herbes, pliant les arbres échevelés, balayant des brassées de feuilles sèches, des lambeaux de fumée déchiquetée. Une odeur fade venait de cette plaine, la senteur des lins rouissant dans la lys, qu'on percevait au loin, sinueuse et rampante, à fleur de terre, étalant ses eaux grasses couleur d'étain sous le ciel sombre. Elle débordait, détrempait les terres, submergeait les grands bacs de chêne où le lin pourrissait. Plus loin, là où les berges remontaient, le lin, en petites meules coniques, séchait à l'air, couvrant de ses pyramides d'un jaune sale et délavé d'immenses étendues. On avait l'impression d'un vaste campement aux innombrables tentes minuscules. Et plus haut, des maisons, des villages, alignés au long des routes grises, reposaient dans la tranquillité triste de cet après-midi de Toussaint. Tout cela était comme rapetissé, écrasé sous la horde des nuages. On eût dit une innombrable armée tumultueuse se bousculant à l'assaut du moulin. Du haut de cette tour de bois mouvante, agitant ses grands bras en gestes de défi, le coup d'œil était fantastique. « Le vent, » dit Van Bergen, « je ne sais rien de plus fort, de plus exaltant. Tu n'aimes pas le vent, Karelina ?»«
Si, » dit-elle.
« Moi, je ne sais pas, mais il m'inspire. Regarde-le courir, on le voit passer. Regarde les nuages, c'est comme son troupeau à lui. Il les mène, les mord, les bouscule, leur arrache des flocons de laine. »«
Oui, » disait Karelina.
« J'aime ce vent qui nous arrive ainsi, sauvage et libre. Vois-tu, je voudrais, pendant quelques semaines, demeurer ici dans ce grenier,
Oui, avoir ma table sous cette fenêtre et travailler comme ça, en plein ciel, avec ce roulis, ce gémissement de navire autour de moi. Oui. Van Bergen retira sa tête de la lucarne qu'il avait ouverte et s'aperçut que sa nièce le regardait avec une expression singulière. Il rit. Drôle de bonhomme, n'est-ce pas, que l'oncle Van Bergen ?
Non, dit Caroline, vous êtes comme je pensais.
Comme tu pensais ?
Enfin, c'est comme ça que je vous voyais dans ma tête.
Bah !
Oui ?
Elle ne dit plus rien, gênée un peu. Domitien Van Bergen sourit. Allons, je vois que tu avais raison de dire que tu te souvenais de moi, Caroline. Tu te rappelles donc encore le temps que j'ai passé ici ?
Je me suis toujours souvenu de vous. Vous étiez si drôle, oncle Domitien.
Drôle ?
Oui, oui.
Et pourquoi drôle ?
Je ne sais pas. Je sais seulement que je m'amusais bien quand vous étiez là. Au temps où vous n'étiez pas marié encore, vous aviez votre chambre au village et vous veniez chez nous voir ma tante Wilfrida. Et quelquefois, quand elle n'était pas rentrée, nous partions à deux à sa rencontre dans les champs. Vous souvenez-vous, oncle Domitien ?
Oui, un peu.
Et vous me montriez des tas de choses que je connaissais et que je ne voyais pas. L'air qui danse au-dessus des champs de blé coupé, la fumée qui traîne sur l'eau le matin. Et on allait sentir l'odeur de la terre et des bois quand il pleuvait. Et on mangeait de la neige pour voir si c'était bon. Ou bien on montait ici, on se couchait sur les sacs de grains. Vous disiez, regarde, on est en mer, regarde passer le ciel sur nos têtes. Nous allons vite, très vite. Et je regardais, regardais, ma tête tournait, j'avais le vertige. Vous vous rappelez ? Et quand le vieil Engel nous a pris dans sa voiture pour aller en France, on est revenu la nuit. Il pleuvait. Nous étions sous la bâche, au milieu des pommes de terre. L'eau coulait au-dessus de nos têtes. Vous disiez qu'il y avait des dangers autour de nous, que nous traversions un désert, que nous devions rouler des jours et des jours à l'aventure. Et j'avais si peur que, sans rien dire et pour me rassurer, je soulevais de temps en temps un coin de la bâche afin de voir le vieil Engel marcher dans le noir à la tête des chevaux, tout près de la lanterne. Vous saviez tellement me faire peur. Et ce soir encore, où des paysans avaient allumé un grand feu de fanes de pommes de terre dans la campagne, vous m'avez dit « Viens le voir avec moi ». On marchait dans le brouillard pour atteindre ce feu bleu et rouge. J'avais mes cheveux tout mouillés de vapeur. Et vous disiez que c'était joli. On s'est assis devant le feu. Il fumait fort. On s'est amusé à chercher des figures dans la fumée. Et je voyais tout ce que vous disiez, oncle Domitien. Au retour, il faisait nuit. Nous nous sommes perdus dans le brouillard. Tout le monde à la maison était bien inquiet. Mais nous avions eu tant de plaisir. Vous vous rappelez ?
Van Bergen souriait.
Un peu, oui, un peu.
Quand vous êtes partie, j'ai continué toute seule. J'ai longtemps joué toute seule à tout cela. C'était moins gai, bien sûr. Mais tout de même, je ne m'ennuyais jamais. Et c'est ainsi que j'ai pu me souvenir de vous. Et puis...
Elle leva le doigt, eut un demi-sourire, la charmante expression de celle qui rappelle un petit secret, et, baissant la voix,
« Il y avait votre promesse !»«
Ma promesse ?»«
Oui, oui, vous savez bien, ici, la veille du mariage !»«
Aide-moi un peu, » dit Van Bergen, grandement amusé.
« 8 ans, tu sais !»« Oh, si, vous devez vous en souvenir !» C'était ici, ici même, dans le moulin, nous étions montés à 3, vous, la tante Wilfrida et moi. Il faisait un temps comme aujourd'hui. Chaque fois qu'il vente, j'y repense. Vous parliez avec ma tante, vous étiez content. Et vous m'avez tenu, levé dans vos bras pour me montrer la terre, par la lucarne. Vous rappelez-vous, oncle Domitien ?
Continue.
Et puis, vous nous avez embrassés toutes les deux et vous disiez... « Tu verras, ma femme, je veux devenir très riche, très fort, très grand, pour toi, pour te rendre bien heureuse. » Alors j'ai demandé « Et moi ?» parce que cela me faisait envie. Et vous avez ri, souvenez-vous, et vous m'avez levé de terre, comme ça, à bout de bras, en disant « Toi aussi, ma petite Caroline, on te mettra du bonheur plein les bras, tout plein les bras. » J'étais contente, contente !»
« Folle !» dit Van Bergen qui riait.
mais il voyait qu'elle ne plaisantait plus, elle avait les pommettes rosies et ses yeux brillaient.
« Je sais bien, reprit-elle, ce n'était qu'une plaisanterie, n'est-ce pas? Vous ne pensiez pas tout ce que vous me disiez. Mais il y a des choses comme ça qui n'existent pas et qui comptent plus pourtant que les choses vraies pour un enfant. Moi, on dirait que je vous ai toujours attendu, mon oncle. Et quand vous êtes arrivé, j'ai su que c'était vous parce que je vous attendais. C'est drôle, dites, c'est amusant. Mais vous aviez un peu oublié tout cela. »
« Un peu, Caroline. » Il restait songeur, légèrement ému.
« C'est drôle, oui, » pensa-t-il tout haut. Le visage levé vers sa nièce.
« Et quel bonheur pensais-tu donc que je t'apporterais, petite ? » reprit-il gaiement.
« Du bonheur ? Oncle Domitien, je savais bien que vous vouliez rire. Non, je m'amusais seulement de moi-même, voilà tout.
Tu n'es donc pas heureuse ?
« Je ne sais pas, Jeanne n'est pas méchante, le père non plus. Bien sûr, c'était mieux quand maman vivait. Mais à mon âge, n'est-ce pas, on n'est ni heureux ni malheureux, on attend. Moi, c'est l'avenir qui m'effraie un peu. »
Ses yeux bleus, sauvages, s'emplissaient d'une confuse angoisse. Il se sentait attendri devant cette faiblesse, cette incertitude. Il mit la main sur l'épaule de Caroline et dit doucement «
« Eh bien, dans tous les cas, petite, chose promise, chose due. Si plus tard tu n'es pas heureuse, viens me trouver. Je ferai tout mon possible pour tenir ma parole et te donner du bonheur à toi aussi, tout plein les bras. »